Histoire de la côte.
Bienvenue à Histoire de la côte. Mon nom est Alain Roy et je suis directeur artistique au Théâtre populaire d'Acadie, une compagnie de théâtre qui a pignon sur rue à Caraquette, dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Tout jeune, j'ai été fasciné en lisant les histoires de M. Antonin Friolet dans le livre « Caraquette, village au soleil ». Contes, légendes, récits de toutes sortes font partie de notre imaginaire et de notre patrimoine. Mais voici des histoires qui, bien que romancées par M. Friolet, reposent toutes sur des faits historiques. Elles se sont déroulées le long de nos côtes. Je vous invite à les découvrir par la voix de nos comédiens et comédiennes, agrémenté de captivantes mises en contexte par nos historiens et, à la fin de chaque histoire, des invités spéciaux qui viennent enrichir ces récits incroyables, bien que réels. Bonne écoute!
Épisode 6.
Victime des ondes.
Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam.
Miserere mini mei, saltem vos amici mei. Ayez pitié de moi, vous du moins qui êtes mes amis. La voix riche et sonore du maître de chant, Alphonse Légère, résonne sous les hautes voûtes de l'église Saint-Paul à Bas-Caraquette et fait venir les larmes aux yeux de la foule d'amis et de parents qui, de près et de loin, sont venus rendre leurs hommages aux amis et parents disparus, car la tragédie a encore frappé. Les sanglots des cinq mères attristées et ceux des nombreux frères et sœurs se perdent dans le chant émouvant du Miserere. Quid manus domini te tegit me? La main du Seigneur m'a touché. Les deux survivants ne peuvent réprimer leurs sanglots, car ils auraient fort bien pu se trouver à la suite des quatre cercueils alignés dans la grande allée de l'église. C'était dans la nuit de mardi 5 novembre 1935. Lorsque le village dormait, que le capitaine Azad Le Boutillier, son fils Alphonse et quatre autres membres de son équipage avaient glissé du pont de l'Écumeuse, la goélette dont Azad était le propriétaire, et était tombé à la mer. La nuit était calme et les hommes préparaient la goélette qu'ils montraient haut sur la côte à l'abri des glaces de l'hiver. Ils avaient déchargé le lest au quai de Bas-Caraquette, de sorte que l'embarcation était plus légère et plus haute sur l'eau, ce qui la faisait balancer précairement à gauche et à droite, selon la manœuvre. Une grosse boîte pour recevoir la morue avait glissé du pont et entraîné avec elle les hommes à la mer, à moins de 200 mètres du quai et du rivage. Il n'y avait personne dans les alentours pour entendre les cris de détresse de ces pêcheurs paralysés par l'eau glacée de cette froide nuit d'automne. Ainsi, quatre de ces pêcheurs périrent, tandis que les deux autres, Abbé Légère, âgé de 19 ans, et Phileas Doucette, âgé de 23 ans, se cramponnèrent au doré. Ils furent sauvés à l'aube par un habitant matinal qui avait compris la tragédie de la goélette chavirée. Aussi, n'est-il pas étonnant que leurs sanglots dominent ceux des parents affligés?
Azad Le Boutillier est né le 21 décembre 1892 à Bas-Caraquette.
Philippe Basque, historien.
On le décrit comme étant un homme jovial, très ambitieux. Il va être initié à la pêche par son père, Joseph Le Boutillier, vers 1907. À ce moment-là, il y a à peu près 15 ans. Il va être le capitaine du navire le Mercury en 1914. À cette époque-là, il y a 22 ans. C'est un bateau qui est loué à la compagnie W.S. Logay. Beaucoup de ces compagnies-là louent des bateaux aux pêcheurs, puis eux vont acheter le produit de la pêche. Ce navire-là, à cause de sa couleur, on le surnomme le gros botte vert, parce que botte, c'est un anglicisme pour le mot boat. Lui, Azad Leboutillier, il construit des goélettes, il construit la ALB. Il vend aussi des goélettes, donc il a construit puis il achète différentes goélettes. La ALB, il va justement la vendre. Ensuite de ça, il va construire la Sirène en 1924. Il va la vendre en 1929 pour 2 700 $. À l'époque, il a vendu cash pour tous des billets de 100 $. Ensuite, il va acheter la Marie-Joséphine. Mais à cette époque-là, on est dans l'époque de la contrebande d'alcool. On est dans le temps de la prohibition. Donc, lui va être justement saisi pour avoir fait du trafic de l'alcool de contrebande. Donc, la goélette est saisie. Elle va être vendue aux enchères. Et il va sortir de prison. Il va louer l'écumeuse de la W.S. Logay. Puis, il va devoir payer des dettes comme ça. À ce moment-là, sa femme est malade puis il est père de 5 enfants. Donc, en novembre de 1935, son navire est à la mer et puis c'est la tempête. Donc, il faut qu'il rejoigne l'écumeuse avec un doré. Donc, en apportant le navire à la côte, la goélette tombe sur le côté. Donc, on tente de la redresser. On s'installe dans le doré, on travaille comme ça. Mais en même temps, il y a une boîte qui appartenait à la W.S. Logay qui tombe à l'eau et c'est en récupérant la boîte que le doré va chavirer et tout le monde va tomber à l'eau. On essaie de tant bien mal de se ramener sur la dorée qui est tombée, mais il y en a qui ne peuvent pas. On crie à l'aide. Il y en a un des types qui a tombé à l'eau qui se rend sur la côte. Donc là, on entend les pêcheurs crier au secours. Finalement, lorsqu'on va arriver, il y a seulement 2 qui vont rester sur le doré. Les 3 autres sont perdus en mer. Et c'est seulement le lendemain matin qu'on va retrouver, entre autres, le corps de Azad Leboutillier. Lui, lorsqu'il décède, il va laisser une hypothèque sur la maison. Sa veuve est en mauvaise posture financière, des enfants bas âge. Mais heureusement, il y a Alexandre Albert qui va être celui qui va avoir l'hypothèque, va au moins redonner l'hypothèque de la maison à son épouse. Fait que c'est un peu ça le triste sort de Azad Leboutillier.
Deo gracias. À l'hôtel, le père Robin Thériault, curé de la paroisse, prie pour le repos de l'âme des défunts et ce faisant médite sur la sévérité des impondérables. Azad était son grand ami, qu'il connaissait depuis longtemps, puisque c'était dans sa paroisse à Pocmouche, qu'il était allé se chercher une épouse. Il l'avait conseillé en des temps difficiles. Azad était un homme fier de son métier et joyeux de son sort. Il aurait pu être un leader d'hommes. Il était bien regrettable que les circonstances ne lui aient pas permis de faire usage de ses capacités dans une profession plus conforme à son caractère et à sa personnalité. Avec ses cheveux jaunes ébouriffés et son air taquin, c'était un homme de belle prestance, surtout dans ses habits du dimanche. Personne ne l'enviait. Peut-être la longue maladie de son épouse Maggie et les frais que ceci occasionnait avaient éloigné toute envie et lui avaient gagné l'admiration de tous ceux qui le connaissaient. Il ne se départissait jamais de sa belle humeur. Il pouvait apercevoir le prévert dans le désert, l'aube dans le lointain, la lumière dans les ténèbres. Son avenir semblait plus prometteur, car la chance semblait lui sourire dernièrement. La pêche avait été bonne et la santé de Maggie s'améliorait. Mais, hélas, beaucoup se voient privés des bonnes fortunes de ce monde. La mort l'avait emporté, alors qu'il n'avait que 48 ans. Le deuxième cercueil est celui de son fils Alphonse, jeune garçon qui avait hérité le cœur et les beaux traits de sa mère, et le courage et la confiance de son père dans la conquête des difficultés inhérentes à la vie. Pourtant, il était bon nageur. Il n'avait que 17 ans. Quelle pitié! Le troisième cercueil est celui de Martin Paulin. Jeune homme de 20 ans, plein de vie et de promesses, et l'espoir de ses parents âgés. Fait ironique, on le considérait le meilleur nageur de l'endroit. Il pouvait nager du quai de Bas-Caraquet jusqu'à la pointe de l'île de Caraquet, une distance de plus d'un kilomètre, et revenir au quai. Mais la vie, avec ses nombreux impondérables, sera toujours ce qu'elle est. Impondérable. Le quatrième cercueil est celui de Maxime Paulin. Parent de loin à Martin, homme bon et solide, qui à 38 ans laissait une grande famille et une assez jeune veuve. On ne verra plus ses joues rondes comme des pommes et sa chevelure épaisse. Pas toujours bien peignée en semaine. Qui aurait pensé que ces quatre braves pêcheurs, qui s'étaient aventurés dans les grands bancs de pêche et qui avaient bravé des tempêtes sans nombre, trouveraient la mort à 200 mètres de leur propre rivage. Qui aurait pensé que, si jeunes et si pleins d'avenir, me précéderaient dans la tombe. Moi qui suis prêt à paraître devant mon Créateur.
Jusqu'aux années 1940 et 1950, les rites funéraires et les veillées mortuaires se passent pas mal tout le temps aux maisons. Alors, dans les années 40-50, on va commencer à voir des gens qui vont embaumer les dépouilles. Lorsque l'embaumement est terminé, on fait l'exposition des dépouilles à la maison. Alors, lorsque la personne qu'on sait qui est malade ou qui va décéder, souvent on a fait appel au curé. Le curé va venir et faire les derniers sacrements avant que la personne va mourir. Et lorsqu'il va avoir un décès, il y a une personne qui est attitrée dans le village pour nettoyer la dépouille, nettoyer le corps. Donc souvent, c'est une femme pour les femmes et un homme pour les hommes. Donc dans ce cas-là, on va tout préparer le corps pour l'exposition qui va durer 2 jours et 2 nuits. C'est ça la tradition à l'époque. Donc les hommes, habituellement, s'il y avait une barbe, on va tout lui faire la barbe. On va tout nettoyer au complet. On va s'assurer que la bouche reste fermée durant l'exposition. Alors, on va placer un tissu temporairement au-dessous de la bouche pour faire sûr que ça reste fermé. Et pour les yeux, on va placer des pièces d'une scène pour s'assurer que les yeux se ferment. Donc, pendant qu'on prépare le corps, on dit qu'on va l'exposer sur les planches parce qu'à l'époque, on n'a pas nécessairement de lieu d'exposition dans la maison déjà tout prêt pour ça. Alors, on va prendre 2 chaises ou 2 tonneaux. On va installer des planches, on va installer des draps noirs pour cacher tout ça. Souvent, il y a le menuisier du village ou quelqu'un dans la parenté qui est capable de construire ou de fabriquer un cercueil. Donc, pendant qu'on fait l'exposition, le cercueil est en train d'être construit parce qu'il fallait aller mesurer la dépouille pour faire sûr qu'ils peuvent s'installer dans le cercueil. Et durant les 2 nuits et les deux jours de veillée mortuaire, il faut toujours avoir des gens qui sont en prière proche de la dépouille. Évidemment, il y a tout le temps des gens qui rentrent, qui sortent de la maison. Et ça occasionne souvent des petites fêtes ou des petites rencontres de famille. Je sais par exemple, comme à minuit, souvent on servait un repas aux gens qui étaient là en train de prier. Là. Et puis pendant les veillées aussi, si on était proche d'une école, j'ai déjà entendu que parfois les élèves devaient aller voir la dépouille ou prier auprès de la dépouille. Donc ça c'était souvent que les élèves se rendent dans la maison où est-ce qu'était le deuil. Et après les journées de veillée, là on avait les funérailles proprement dit, donc on allait à l'église et ensuite on inhumait le corps dans le cimetière. Alors hiver comme été, on enterrait directement dans le cimetière. Donc l'hiver c'était plus compliqué parce qu'il fallait pelleter la neige et puis ensuite de ça pelleter dans la terre qui était gelée. Et puis au printemps, on avait certaines difficultés lorsqu'on creusait parce que la fosse dans le fond se remplissait d'eau. Donc on a certains témoignages qui disent que lorsqu'on plaçait le cercueil, il y avait tellement d'eau dans la fosse qu'il fallait pousser le cercueil pour qu'il se remplisse d'eau pour finalement l'enterrer. Alors c'est un peu ça qui est les rites funéraires à l'époque.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, susum corda,
abemus... Dominus vobiscum. Le diacre, le père Arthur Gallien, natif de Caraquet et curé de Néguac, grand livre en main, et le sous-diacre, le père Léonce Massolio, curé de Caraquette, tenant l'encensoir, se tourne vers le curé pour la lecture de l'Évangile, suivi de l'homélie.
Mes bien chers frères, nous ne devons jamais interroger les desseins de Dieu. Plutôt, nous devons nous efforcer de les comprendre, si la chose est possible, pour mieux les apprécier. Si l'enfant qui n'est pas encore né pouvait se faire une idée de ce qui l'attend à l'extérieur, dans ce monde, avec ses déceptions, ses épreuves, ses souffrances, il dirait « Je ne veux pas naître. Je veux rester ici, dans le sein de ma mère, où il fait bon, où il fait beau, où il fait chaud, où je suis à l'abri de tout ce qui est offensif et déplaisant. Mais il faut nécessairement naître, et il naît. L'enfant naît, et il grandit. »
Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la mort? Poussière tu es, et poussière tu seras. Cette formule n'est pas difficile à comprendre du point de vue chimique. On peut expliquer à l'enfant la désintégration d'une cellule, la transformation des atomes d'un élément par rupture de leur noyau, l'enchaînement des particules de ces éléments pour perpétuer la vie sous une autre forme, comme la pourriture d'une carcasse qui produit la belle rose ou la céréale de laquelle se nourrit le bétail, duquel se nourrit l'homme. C'est donc dire que l'énergie est indestructible. L'atome le plus petit des systèmes nucléaires ne meurt jamais. Il est formé d'un noyau et d'électrons, ces particules élémentaires chargées d'électricité. L'électricité est dans tout et partout. Elle nous entoure et nous domine. L'éclair de la foudre, l'étincelle qui se dégage quand deux corps durs se heurtent, quand certaines matières rudes se froissent. C'est l'énergie à la base de toute chose. Mais que dire de l'énergie originelle et souveraine qui crée l'intelligence inférieure, l'intelligence humaine, qui doit lutter pour comprendre l'intelligence suprême qui dirige l'univers, de l'énergie qui crée la matière organique de l'inorganique, de l'énergie qui pousse une myriade de cellules à collaborer à un phénomène qu'on appelle la vie. Mais la vie ne peut être sans la mort. La mort est une porte entre deux vies, la vie du corps et la vie de l'âme. Supprimer la mort organique, ce serait fermer cette porte et condamner l'âme pour toujours à être prisonnière de la matière, l'enchaîner à la servitude pour l'éternité.
Au lieu de pleurer notre départ d'une existence terrestre si courte, si éphémère, pourquoi ne pas vous préparer à franchir la dernière étape de la vie humaine, celle du dernier pas vers la paix et la sécurité éternelle, pour que vous puissiez jouir avec nous, bientôt, de toutes ces béatitudes célestes. Ainsi soit-il.
Le curé retourne à l'hôtel, où il y a une longue pause. Sa mémoire remonte à une autre époque, au 5 juin 1914, lorsque la tragédie avait frappé la côte nord de la province. Des vents violents, soufflant à 120 km à l'heure, poussaient les fragiles goélettes et les petites embarcations sur toute la longueur de la côte, où elles se brisaient contre les rochers ou faisaient naufrage. 13 pêcheurs de Caraquette, 6 de Bas-Caraquette et environ 15 de Chipagan et La Mecque s'étaient noyés ou avaient été portés disparus. Prosper Albert de Caraquette avait péri avec ses deux garçons. Martin qui venait de se marier et Jean-Baptiste qui ne l'était pas encore. Le beau-père de Prosper, Olivier Paulin, s'était noyé avec eux. Joe Thériault et ses fils, Jean et Frédéric, avaient eu le même sort. Frédéric venait de terminer ses études au collège du Sacré-Cœur de Caraquette et avait accompagné son père pour la première fois à la pêche en haute mer. Joseph Chenard se noya, mais son frère Gervais, qui pêchait avec lui, survécut.
Alors, la péninsule acadienne a vu beaucoup de naufrages et beaucoup de tempêtes au cours de son histoire. Alors, voici trois tempêtes. Celle de 1857 est probablement l'une des pires par rapport au nombre de pêcheurs noyés. Donc, on estime entre 40 et 50 pêcheurs noyés dans la grande région de la péninsule acadienne. C'est une tempête qui a eu lieu entre le 21 et le 22 juillet. On raconte qu'il y avait des vagues de 50 pieds et que les navires essayaient de voguer à l'intérieur de ça. On raconte que les navires allaient sur la pointe de la vague et tombaient comme s'ils tombaient en bas d'une falaise. Donc, il y a beaucoup de navires qui ont été détruits comme ça et que les pêcheurs sont noyés. Après la tempête, l'industrie de la pêche est en très mauvaise posture. Nombreux bateaux sont détruits, sont perdus et beaucoup de pêcheurs sont noyés. Beaucoup de pêcheurs ont de la parenté ensemble, car souvent on pêche avec nos fils ou nos frères ou nos oncles. Alors, il y a plusieurs familles qui se retrouvent orphelins de père et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent veuves après ce grand naufrage là, de 1857. Une autre tempête qui a frappé la région, c'est celle de 1900. Donc, c'était au mois de septembre. Après la tempête, on compte une vingtaine de morts et plus. L'Évangeline rapporte la tempête le 4 octobre, presque un mois plus tard, parce que les nouvelles voyagent un peu lentement. C'est un conte rendu anonyme qui venait de Boca Raquette. On raconte là-dedans, par exemple, que la goélette de Luc Friollet rapporte 6 pêcheurs noyés à son bord et qu'à ce moment-là, il manquait encore 4 goélettes à l'appel. Donc ça, la tempête de 1900 a fait quand même de nombreux morts noyés. Encore là, beaucoup d'orphelins de père et beaucoup de veuves. Une autre célèbre tempête, celle du 5 juin 1914, à cette époque, on estime que la pêche hauturière est à peu près de 202 goélettes et de 800 hommes et que la petite pêche côtière est de 1000 hommes, donc les petits bateaux, les chaloupes, les dorés, les canots, les pirogues. On s'était aperçu cette journée-là que le temps commençait à être instable. Il y avait neigé la veille. Donc, vendredi vers 9 h, un vent se lève. Les navires se trouvent à l'est de l'île de Miscou. On estime qu'il y a à peu près 280 hommes sur tous les navires qui se trouvent dans ce coin-là. La majorité des bateaux décident de havrer. Ils réussissent à contourner la pointe de Miscou. Il y en a un certain nombre qui vont se cacher du côté de Petit Chupagan, tandis qu'il y en a d'autres qui vont filer ailleurs. Donc, il y a trois, quatre navires qui vont se suivre. Il y a le bateau de Joe Frigo qui va décider, lui, d'aller vers la côte. Mais il y a des navires qui ne le voient pas parce qu'on ne voit pas à une grande distance tellement la tempête est forte. Alors, il y a le capitaine Prosper Albert qui, lui, va faire un naufrage. Ceux qui sont à bord vont tous se noyer, dont un qui s'appelait Martin Albert, qui était marié depuis seulement 6 semaines. Le bateau qui suit est celui de Joseph Thériault. Lui, va faire un naufrage aussi, puis on va tout perdre de l'équipage. Il y a d'autres bateaux aussi qui vont disparaître. Le capitaine Augustin Leboutillier, qui pilotait la goélette de Freddie T.B. Young, va disparaître également. Et il y en a d'autres qui vont se noyer aussi. Par exemple, Fred Chasson de Saint-Simon, il prend la barre temporairement pour que son père va dans la cabine du bateau. Et lorsque le père sort de la cabine, c'est là qu'il va voir son fils se faire emporter par les vagues. Eux étaient presque en sécurité dans le port, donc ça a été une perte terrible là aussi. Beaucoup de bateaux vont être capables d'entrer dans les ports, dans les havres de Chupagan, de Petit Chupagan, mais ils vont quand même avoir beaucoup de dommages. Mais le lendemain, ils vont pouvoir sortir puis retourner chez eux. Cette tempête-là, mais malheureusement, va faire à peu près 12 morts venant de la région de Caraquet, Bas-Caraquet et de Saint-Simon.
Libérame Domine.
Libera, libera me, Domine. La riche et tremblante voix du maître de chant ramène la congrégation à la réalité, à la présence de la mort. Et les sanglots des deux mères veuves et des orphelins s'élèvent et dominent les voix du cœur. Le père Galien passe le doigt derrière ses lunettes, comme pour ôter un brin de quelque chose au coin de l'œil droit. Et le père Marsolio sort son grand mouchoir blanc et se mouche avec bruit. Le curé laisse l'autel et s'avance lentement vers les cercueils. Quelques larmes roulent sur ses joues rougies, tandis qu'il asperge d'eau bénite les restes de ses amis défunts.
«
D'un vif coup d'œil, il voit la grande foule d'âmes sympathisantes qui a grand-peine à se contenir. Ici, l'amitié et la sincérité règnent, suprêmes. C'est tout un contraste avec les funérailles des rois et des grands, où il y a un déploiement de pompe et de magnificence, où les personnages importants viennent pour se faire voir, où les moins importants viennent par curiosité assister au grand spectacle, où l'effet cumulatif des prières vaut moins que celle du chien qui seul suivait le cercueil du célèbre Mozart, mort pauvre, après avoir confié son magnifique requiem au répertoire de chants religieux. Soudain, le père Robichaud se redresse. Il s'effleure la joue comme pour cacher un moment passager de faiblesse. Son visage s'illumine et d'une voix forte et puissante, il entonne In
paradisum.
Pourquoi pleurer votre mort, mes amis? Vous qui avez franchi la dernière étape vers la paix et la sécurité éternelle. Nous avons besoin de nos larmes, nous qui restons, nous qui nous tourmentons, nous qui luttons dans un monde constitué d'épreuves, d'hypocrisie et de rancune. Ce vendredi 8 novembre, un vent froid balaie le village. Mais ceci n'empêche pas les fidèles amis de s'assembler autour des quatre fosses qui vont recevoir les cercueils dans le cimetière de Bas-Caraquet. Les premières pelletées de terre tombent avec pluie sur les cercueils et un frisson glace le cœur des vivants. Vanité des vanités. Est-ce ainsi que les rêves des hommes et leurs espoirs grandioses sont anéantis? Quelle est terrifiante cette séparation finale de l'âme de son corps organique. Quelle est macabre et triste la perspective que la vie humaine finit avec elle. De profundis clama vi ad te domini, murmurent les trois serviteurs de Dieu en s'en allant. Le père Galien s'arrête et s'approche du groupe affligé et l'encourage de ses sages condoléances. Le père Robichaud aimerait leur parler, les consoler. Mais ce curé philosophe, docteur en droit canon, fils de fermier, ne peut trouver les mots. Il est encore trop tôt, pense-t-il. De plus, il a le cœur trop lourd. Plus tard, il le fera. Et les funérailles sont terminées. Tel est le prix que les pêcheurs et leurs familles doivent payer à la mer pour la moissonner.
Ça arrivait un samedi. On avait sorti vendredi soir. Drivions pour le saumon, je crois. Mais il y en a d'autres qui drivions pour le maquereau. Puis Harry, moi j'étais avec Harry Murphy, lui drivait pour le saumon.
Monsieur Charlie Richard nous raconte sa nuit en mer, lors de la tempête qui a provoqué le naufrage de 22 navires et la mort de 35 pêcheurs au large d'Escuminac, au Nouveau-Brunswick, dans la nuit du 19 au 20 juin 1959.
C'était dans le mito du Northumberland Strait. Ça fait que des fois tu voyais la terre, des fois tu ne peux pas. Alors tu voyais l'île ou tu voyais Nouveau-Brunswick. C'était à peu près dans le miton, je parle. Parce que Skiminac et Baie-Saint-Anne, ils pouvaient passer le saumon droit dans la baie, je crois. Je ne sais pas, ben, j'étais pas là, moi. Ben. Alors, je ne sais pas où ce qu'ils sortaient, eux. But anyway, nous autres, c'était dans le Northumberland Strait. Puis ça faisait vite. Comme quand on a sorti, il faisait beau, là. Parce qu'on n'aurait pas sorti. Puis Harry, ça c'était un bon capitaine. Puis Ben aussi. Puis j'ai sorti au du Cap, ou du village, ou du Cap, I guess. Cap Lumière qui a bien sûr. Puis nous autres, on sortait de Chibouctou. Ça, il faisait vraiment beau quand on a sorti. Puis ça faisait. Ouais, je sais pas, au souper ou tout de même, I don't know. Quelle heure qu'il était, je sais pas. Puis ça faisait dur, ça faisait tout d'un coup. Nous autres, on a essayé de rester sur les corbes, sur les scènes, là, tu sais. Mais la corbe a cassé. Harry a essayé de pogner back ses corbes, mais on n'a pas pu. Puis là, il a dit, on va essayer à Richibucto. On va rentrer back ici. Home port, hein.
Puis là, c'était rendu le soir, là? C'était
ben
c'était
non, pas encore, là. Okay. C'était encore le jour.
Ouais, c'est vrai, c'est au mois de juin, il y a clair tard.
Là, tu sais. Puis, quand on est arrivé dans la gueule de la rivière de Richibucto, il y a un bot qui est en avant de nous autres, puis ça, c'était les Calais. Puis, lui, il capsized. Le bot a cassé en deux. Là, on pouvait pas rentrer là. Ça fait parce avec la vague qui était assez creuse, que quand tu venais dans la creuse de la vague, il y avait du sable de reste, là.
Okay.
Ça fait que le bot descendait de même, lui.
OK, ça fait qu'il a tapé le fond.
Il a attrapé le fond. Là, il a fondu en deux.
Puis, il était juste en avant de vous autres?
Oui, il était un petit bras en avant de nous autres, oui. Puis là, Harry a dit, well, c'est pas utile d'essayer ça, parce qu'on va faire la même chose que lui. On va virer de bord, and how he did it, I don't know. Il a viré de bord, puis on va aller à Summerside. Ça, c'est sur l'île de Prince-Édouard. Ça fait qu'on a sailé là-dedans, pour une bonne élan, puis on arrive au Ross Summerside. Là, tu vois, c'est rien que ça, c'était tout blanc au travers. Pareil comme à Richibucto, là, c'est tout blanc. Les vagues, hein. Ça fait que là, on a viré back de bord, puis il dit, la seule place qu'on peut rentrer à cette heure, il dit, c'est Bouctouche. Puis c'est là où qu'on a sailé, puis c'est là où qu'on a enterré à Bouctouche. On était trois hommes dans le bot. Il y avait, ouais, quatre, I guess. Il y avait moi, puis le garçon Harry, Léo. Puis, on se souvient pas de son nom. Boudreau? Non, pas un Boudreau. On se souvient plus de son nom, lui, là. Je sais qui ce qu'il était, puis je lui vois la face, je ne peux pas penser à son nom. But anyway, on a viré de bord, c'est comme dit, on a arrêté à Bouctouche. Le storm était fini quand on arrive à Bouctouche.
Mais là, ça a duré toute la nuit, ça, là.
On arrive à Bouctouche, c'était dans le matin, je ne sais pas quelle heure qu'il était. But le gars qui était avec nous autres, lui, aussitôt qu'on a arrivé au Tchèm, quand on est arrivé en dedans de la baie là, de Bouctouche, nous autres, on a été se coucher. Harry a dit, you folks go to sleep, I'll take her in. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, c'est le chat, qu'est-ce que le gars-là a grimpé sur le chat, puis il a fait le poste pour s'en aller back à Richibucto. Ah ouais. Quand il est arrivé à Richibucto, je ne sais pas où ce qu'il a été, mais il n'a pas dit à personne qu'on était OK, là, nous autres. Il n'a pas parlé à personne.
Ça fait le monde ne savait pas que vous étiez encore en vie, vous autres, là.
Non, ils ne savaient pas, là. Puis, moi, j'ai resté à Bouctouche, parce que c'était plus proche pour moi de rester à Bouctouche puis aller à Moncton pour aller travailler, qu'on allait back chez nous. Ça fait Harry, je savais qu'il gardera après ça. Puis aussitôt qu'il a fait clair, Harry a viré de bord, puis on a été back. Puis là, il y avait rien que la houle de reste, là.
Ça fait que vous, à ce moment-là, vous travailliez déjà pour NB Power.
Oui.
Puis vous pêchiez sur la fin de semaine, ou?
Ben, j'avais rien que là pour le sel, moi. Moi, jamais d'aller à bord des bottes, hein. Vraiment, j'avais pas été là pour travailler, mais j'étais là, puis je les aidais, hein. Avec tes prendre sel. Oui, une sel.
Oui. Ça fait que vous avez passé toute la nuit sur le bateau.
Oui.
Puis, comment ça se passait, là? Parce que j'imagine que vous deviez...
Oui, les vagues passaient par-dessus le bot, puis on bêlait, nous autres. Puis, c'était pas si bad que tout ça, parce que Harry avait des bons bottes, puis il savait quoi faire pour prendre la lame comme qu'elle devrait être prise, you know, parce que c'est une trick. But Harry avait sailé toute sa vie, hein, puis il était un bon capitaine. But non, pour penser, pour m'en souvenir de quoi ce qui va arriver, je me laissais, là, je comprends. Tu gardes pas quoi ce qu'un autre doit faire, là, t'aides le mieux que tu peux. But c'est drôle, j'ai jamais pu comprendre ça. On était pas mal de mer. Tu croirais qu'on aurait venu ici, c'est que là. Ben, non. Puis la semaine d'après, j'ai été à Richibucto, personne n'en parlait. C'est pareil comme... Ça me laisse souvenir, j'ai pensé ça L'autre jour, comment ça se fait que personne n'en parlait? C'est pareil comme les vieux soldats qui avaient passé au travers de la Deuxième Guerre. Ils n'en parlions pas.
C'est comme un traumatisme.
Yeah. Non, personne n'en parlait.
Puis là, vous autres, vous étiez quatre sur le bateau, c'est ça?
Il y avait moi, puis Babino, puis le capitaine, puis Léo. On était quatre. Bon, moi, normalement, j'aurais pas été là, là.
Puis là, vous disiez qu'il y en a un, lui, qui n'aidait pas à Bailey, et lui, était...
Ben, lui, il a prié la Sainte Vierge, là, tout le temps qu'on était dans le storm. Mais il n'est pas, lui, là. Ouais, il est trop épeuré, je comprends, je suis pas traumatique. Okay. Je sais qu'est-ce qu'il a fait le Silche, il a été à droite à Richibouctou. Oui. On ne l'a jamais vu sur un bateau après, je ne crois pas. Moi, je ne savais pas, mais je ne sais pas si il a sorti bête.
Sur ces bateaux-là, à cette époque-là, ils ne devaient pas avoir grand équipement, là, les
radios et tout ça. Il n'y avait pas de ça. C'est pour ça que le storm a fait ça. Quoi. Si qu'il y avait eu les radios qu'il y avait aujourd'hui, on n'aurait pas sorti au large. Parce que la radio disait qu'il y avait un storm ou ça. Dans ce temps-là, il n'y avait rien de son tout. Puis, il y avait un lot de bottes, comme nous autres, moi j'étais chanceux avec Harry, puis Ben Doucette. Ceux avions des carices dessus le bottes, pendant qu'il y avait un steur, là. Ça fait que la lame, qu'est-ce qu'elle faisait, elle passait par-dessus le carice, puis là, ça tombe, l'eau tombait pas trop bête dans le bottes. À ce temps, il y avait des ham radio, puis des cell phones, puis tout. Puis nous autres n'avons rien de ça, là. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie, ben. Moi, je m'en souviens, il y avait rien que des battery radios dans les maisons. Rien que ça qu'il y avait, des B-batteries, puis on voyait. Mais à part de ça, you're on your own.
Puis quand vous disiez que vous bailiez le bateau, il n'y avait pas de pompe électrique ou rien? Ou c'était
bien là, à bras, nous autres, oui.
Ouais,
okay. Comme les vieilles eaux-fâches, une pompe, ça. On prenait chacun notre tour, moi puis Léo.
C'était quoi? C'était une pompe mécanique?
C'était une pompe qu'ils faisions eux-mêmes. C'était une pipe... peut-être ben 3 pouces ou 4 pouces de fer, puis ils mettaient une dalle dessus, comme un manche à balai ou quoi de même. Il y avait une coupe en dessous, puis ils remplissaient la coupe, puis toi tu allais, puis l'eau passait dans la dalle. C'était fait avec du cuir.
Mais c'était tout manuel, c'est
ça? Oh oui, oh oui.
Il y a un homme qui pompe là-dessus tout le temps.
Oh oui, tu pompais. C'est comme dit, c'était pas si bête que ça nous autres. Parce que le bottes n'était pas rouvert. Il y a beaucoup de pêcheurs, il y avait des bottes rouvertes. Ça fait que quand la lame passait par-dessus le nez du bottes, elle tombait droit dans le bottes. Les autres, elle tombait pas. Elle tombait plus sur le stern.
Plus en arrière, OK.
Puis là, ça prenait moins d'eau. Hein. Mais il fallait que tu baies. Il fallait pas que tu arrêtes de baies.
C'est ça. Ça fait que ceux qui avaient des bateaux ouverts, eux autres, ça s'est rempli plus vite qu'ils pouvaient bailer.
Ah oui, ah, ouais, ça
coulait.
Pouvaient pas.
Pouvaient pas fournir.
Puis je sais pas, moi j'ai pas vu ça, c'est, mais j'ai entendu parler, il y a Dieu comme à Skimenac, puis ces places-là, ils sont morts après les morts. Parce qu'on avait tous des morts. Quand tu drivais, tu mettais ta voile de bout, puis le vent poussait ton bout, ça tenait ton bout, puis t'étais sain droite, hein. Ça fait que tu renais pas ton enjeu pour bien que tu aies ton bout droite, puis t'es sain, hein. Parce que tu pouvais pas les laisser plier.
Mais ils s'attachaient sur les morts quand ils ont vu la tempête venir, vous voulez dire?
Après. Durant la tempête, je crois. Parce qu'ils les avons trouvés à la côte, en mort et sur les morts de le bot. Hein. Ils flottaient tout le temps ça fait, avec le mort.
Ça fait, c'est pour ça qu'ils ont trouvé les corps.
Oui, plus vite. C'était quoi le thing? C'était moins un vent, I can tell you that.
Oui, c'est au-dessus de 120 km/h.
Je crois bien que oui, je sais pas. Là, mm-hmm. Là, non.
De ce que j'ai vu, là, de ce
ouais,
que
j'ai vu. Oui, peut-être bien que oui. Oh, une autre chose que les gars n'avions pas. Puis je sais pas si Harry n'avait rien ou pas. Je sais que mon oncle Tim n'avait pas. Il n'avait rien parce qu'ils avaient forcé de les acheter des compas. Ils n'avaient pas de compas pour ces bottes-là. Il fallait que tu saves juste aller par ton idée, là. C'était quite a rig. Une fois, on a pris dans une brume, puis j'étais avec Tim. Pêchait de humeur, Tim. Puis, la brume just rolled in. Tout d'un coup, tu voyais rien. Tu avais la misère d'avoir le nez du vote. Et alors, il m'a dit, on peut pas trouver les trappes, on va s'en aller. Ça startait, puis ça s'élait, puis s'élait, puis s'élait, puis s'élait. Jesus Christ, j'ai dit, Tim, t'es sûr que tu vas pas sur l'île de Prince-Édouard? Me semble, j'ai dit, il y a longtemps, tu sais. Oh, il dit, on va voir le Kent Boy, c'est en 15-20 minutes, une demi-heure. J'ai dit, t'es sûr? Ah, oh, oui. Garde le compas, il dit. J'ai dit, où est-ce qu'il est, ce goddamn compas? Il n'avait pas sorti de la boîte qu'il avait amené dedans.
OK.
Garde le compas. Mm. C'est moi qui l'ai sorti, pour voir où il allait. Right, puis il était right on the button. Donc, 15-20 minutes, j'ai vu la Kent Buoy, parce qu'on appelait la Kent Buoy. C'est drôle comment ces gars-là pouvaient sailer. Tu vois rien, là, il y a avec le nez du bot.
Ben, c'est ça, là, tu n'as pas de repère, tu vois ni le Nouveau-Brunswick, ni le Prince-Édouard.
Non, tu vois, à part sur mon lot, là, tu regardes d'autre côté. Bon, il y a beaucoup de jeux, là. Il y a Lyon, l'île de Madeleine. Puis Saint-Pierre-Miquelon, puis ces places-là, pas de compas, pas rien. Ils sont venus en tout. Ah oh, oui, ben, ils avaient scellé d'être dans toute leur vie, je crois bien. Ça se tente à de vitesse. Moi, je vais à des places étrangères, je vais pour le Tchèle premier, puis j'ai plus de fun là que n'importe où d'autre. Là, il y avait tout le temps de quoi râler. Donc, le Chibouctou, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. La Legion était à droite au bout du chat aussi, ça fait que tout était là.
Histoire de la côte est un balado du Théâtre populaire d'Acadie en collaboration avec la ville de Caraquet. Les textes sont tirés du recueil de l'auteur J. Antonin Friolet, Caraquet, village au soleil, publié à compte d'auteur en 1978 et réédité, toujours à compte d'auteur, en 1980 et en 1994, sous le titre « Voici Caraquet ». Nous désirons remercier Mme Marie-Gabrielle Durand-Foxonnet, épouse de Feu J. Antonin Friolet, de nous avoir accordé le droit d'utiliser ses récits. Nous remercions également Mme Aline Landry, agente de patrimoine à la ville de Caraquet, pour sa précieuse collaboration. Nous voulons souligner que les terres mentionnées dans ces histoires et sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie du territoire ancestral non cédé de la nation Mi'kmaq. Lecteur, Clarence Poirier. Historien, Philippe Basque. Invité, Charlie Richard et Donna Lacroix. Voix du curé, Rosaire Haché. Chant grégorien et chanson des suppléments, Donna Lacroix. Prise de son pour les voix de Clarence Poirier et Donna Lacroix, Jean-François Mallet. Prise de son pour les voix de Alain Roy et de Ghislain Basque, Dennis Morton. Conseillère à la réalisation, Noémie Lavoie. Mise en ligne, Annie Thériault. Enregistrement, musique, prise de son, environnement sonore et montage, Jean-François Mallet. Réalisation, Alain Roy et Ghislain Basque. La production de ce balado est rendue possible grâce au soutien de l'initiative Présent numérique du Conseil des arts du Canada. Histoire de la côte est une production du Théâtre populaire d'Acadie.